Le mode de financement de l'hôpital, accusé d'entraîner une course aux actes médicaux, va être revu par ailleurs pour mieux prendre en compte la qualité et les besoins des populations. L'objectif de ces mesures, a insisté Olivier Véran, est de remettre de l'humain, mais aussi des moyens et du sens dans le système de santé.
Valérie Cohen, le Sénat a adopté à l'unanimité cet après-midi une proposition de loi destinée à mieux protéger les victimes de violences conjugales. Le projet introduit notamment une exception au secret médical.
Radio-G. 101.5 FM.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vous êtes sur les ondes de Radio G et désormais à l'écoute de La Musgueule, la quotidienne joyeuse et estivale. Hier, on vous a fait faux bond, on en est désolé, on était à notre rituel de nouvelle lune. Mais on est ravis de vous retrouver ce soir. C'est la dernière semaine de La Musgueule, car oui, on a aussi besoin de vacances, pour être honnête. Et jeudi, ce sera la dernière émission de toute la vie. Alors l'émission de ce soir, elle a été préparée par Kelly. Salut Kelly.
Salut.
Qui a perdu sa voix de joie. Par Émile. Salut Émile.
Salut.
On salue Valentin, que l'angine n'a pas épargné. Et puis j'ai essayé de faire des trucs aussi dans la préparation. Voilà, c'est Andy, salut. Ce soir, on vous propose donc un conseil de podcast pour aborder les questions raciales. Ce sera Kif Taras. On vous propose de tout savoir sur la reprise du tournoi de NBA. Et on vous propose une interview de... Je n'ai pas eu le temps de noter le nom.
Jérémy Clapin.
Merci Kelly. Qui a réalisé J'ai perdu mon corps, un film d'animation hyper bien sorti en 2019. Et puis il y aura une sélection musicale au top. C'est bon, j'ai tout dit ?
Eh bah oui, il me semble que okay. C'est plutôt pas mal.
Alors c'est parti, on débute en musique. C'est un titre que j'ai choisi, que j'ai croisé sur les réseaux et personnellement il m'a capté tout de suite. Ça s'appelle Industry Games de Chica, une jeune rappeuse de 23 ans qui est née en Alabama. Et le titre est issu de son dernier album sorti en février 2020. Il s'appelle aussi Industry Games.
Niggas be playing, yeah. Industry games, yeah. Rapping, but they not in love with it. Think it's a shame, yeah. I'm about to pop on some other shit. Think it's a game. They don't control where I land. Royal flush, nigga, the cards in my hand. Tryna stack all these M's. All of my idols is friends. Get to the fight with some Tims. Will a little bit depends. Through the struggle, I don't run from trouble, no breaking. I just wanna bend. Be defeated, I'm hella conceited. I write on that beat like a pen. I am the one from the stories that got you excited. Rhythmic flow is ignited. I was so easy for her to recite it. Can do this shit while I'm asleep cause I write it. Watch all these niggas be so quick to bite it. I let them in but they'll never be quiet it. Imitation is just inspiration. If you feel like taking, just be sure that you cite it. I'm a trippy nigga with a different aura. Adamant the vision had to start with the supporters. Had a premonition, had to get this shit in order. And I'm finna take it off, I go all with supporters. I've been counted out for too damn long. Like I couldn't take the crown with two damn songs. All up in the booth with no home training. Picking me a count of two damn songs, yeah. Niggas be playing, yeah. Industry games, yeah. Rapping but they not in love with it. Think it's a shame, yeah. I'm about to pop on some other shit. Think it's a game. They don't control where I land. I'm fresh in the bitch and you know that. Don't take my body to show that. Get in the booth, I'm the truth, I get loose, I don't hold back. Fucking the game, they just send me the whole bag. Trading they lyrics and shit, I ain't feel that. Don't need a scam with the plan of the fuck on they may or more that. I'm the antithesis, making them wish that it was just a phase. Now they pray for the show back, still that. Kill them with kindness and sound. Know I'm the tightest around. Get in the cumulus, seat on the ground. They say that I'm gifted, but spoken in brown. Don't need a Birkin, need diamonds and mouth. Too much to ask a rap queen of the south. My shit is imported, they shopping at Rouse. No squares is a teaser, I'm making my rounds. Niggas watching me, they be flocking. They say they tryna slide with me, yeah. I can hear the snakes, they hissing. Tryna break my mission, cause I know I'm about to be. I just tell them, hold tight.
tell them, wait, I got too much on my plate. And I know that I'm a sight to see, yeah. I can make it so official, I'ma blow my whistle. It's a game, I decide the team. Niggas be playing, yeah. Industry games, yeah. Rapping, but they not in love with it. Think it's a shame, yeah. I'm about to pop on some other shit. Think it's a game. They don't control where I land. Royal flush, nigga, the cards in my hand.
C'était Chica à l'instant dans la Musgueule. Pour la suite, je vous propose d'écouter une rediffusion du Mug, qui était l'émission quotidienne que j'animais du lundi au jeudi le matin. Et cette fois-ci, je vous emmène aux 400 coups à la rencontre de Jérémy Clapin, réalisateur du film d'animation J'ai perdu mon corps. Adapté du roman Happy End de Guillaume Laurent, scénariste d'Amélie Poulain, le film raconte l'histoire d'une main qui part à la recherche de son corps.
Est-ce que tu crois au destin ?
Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire.
Ouais.
Et qu'on pourrait rien changer.
À moins de faire... un truc complètement imprévisible et irrationnel.
Un truc comme quoi ?
Un truc improvisé, que tu devrais pas faire, que t'aurais pas dû faire, mais que t'as bien fait de faire parce qu'au final, ça t'a amené ailleurs. Et tu regrettes pas. Un truc comme ça.
Et après, une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi ?
On écoutait à l'instant la bande-annonce du film de Jérémy Clapin, J'ai perdu mon corps. J'ai eu la chance de le rencontrer lors de l'avant-première le 17 septembre dernier. C'était au cinéma Les 400 coups à Angers.
Alors, j'ai découvert l'animation, je pense, en tout cas au-delà du Club Dorothée et de Disney, Pixar et compagnie, puisque ça, j'ai fait mes études aux arts décoratifs. Je suis sorti diplômé dans les années 2000, enfin même en 2000. Et avant, il n'y avait pas tellement de propositions. En tout cas, c'était difficile de voir de l'animation en dehors de ce que je viens de citer. Et il y a eu un voyage scolaire aux arts décoratifs où j'étais qui m'a permis d'aller voir le festival d'Annecy où il y avait des compétitions de court-métrage. Et là j'ai découvert c'est une époque où il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça, donc on avait accès, ça paraît difficile aujourd'hui, mais on avait accès difficilement à cette variété là et j'ai découvert tout un tas de cultures différentes, d'écritures, de cinéma complètement différents. Et c'est vraiment en revenant de ce festival que je me suis décidé, je me suis dit voilà, je veux faire de l'animation. J'y allais en tant que spectateur, j'y allais en, même en fantasmant quelque chose qui ne me paraissait pas aboutir sur un métier. Je me dis comment on peut gagner sa vie en faisant des films d'animation, c'est quelque chose d'abstrait, c'était abstrait à l'époque pour moi. Et du coup, je ne suis pas sorti tout de suite en faisant de toute façon, c'est clair qu'on ne peut pas en vivre, hein, du court-métrage. Donc je suis sorti plutôt avec une formation aussi de graphiste et d'illustrateur, ce qui me permettait finalement de pouvoir commencer à développer des histoires, essayer d'obtenir des subventions pour pouvoir aller voir un producteur pour pouvoir faire ce court-métrage, ce premier court-métrage. Donc j'ai fait un premier court-métrage en 2004, Histoire vertébrale.
Ah oui, avec les deux personnages.
Avec les deux personnages, voilà, qui ont une malformation physique. Et ça m'a donné envie, le film a eu un petit succès, ça m'a encouragé à en faire un deuxième, ce qu'ils aiment, un film qui a pas mal marché dans le court-métrage. Et puis un troisième.
Qui a été primé aussi.
Qui a été énormément primé en fait. Il a été à Annecy, mais il a été aussi aux Oscars, il a été shortlisté au César, shortlisté aux Oscars, nominé au César. Et voilà, prix à Clermont-Ferrand, enfin vraiment beaucoup de prix il a eu. Et ensuite j'en ai fait un autre, et puis voilà, quelques années après, le producteur Marc Dupontavis me contacte, que je connaissais pas, pour faire un. Et me propose d'adapter le livre de Guillaume Laurent, Happy End.
Justement, comment vous êtes rencontré avec ton producteur ?
Il m'a envoyé un email, c'était en 2011, voilà, par email, par voie électronique, où il me dit avoir découvert mon univers de court-métrage et il souhaitait me rencontrer, je savais pas plus.
Donc l'envie vient de lui à la base ?
Oui,
il m'a contacté.
Qu'il avait acheté les droits du livre et il cherchait un réalisateur pour le réaliser. Et voilà, donc il a vu que dans mes thématiques j'abordais le corps, j'abordais des thématiques un peu comme ça aussi psychologiques à travers mes différents films. Et voilà, il a trouvé un écho en tout cas
dans les livres, dans mon travail et celui du livre de Guillaume Laurent, et il m'a proposé d'adapter ce livre. Je l'ai lu en une semaine, j'ai dit oui tout de suite et ça s'est...
Ça t'a parlé
Ouais, il y avait vraiment cette histoire inédite, ce point de vue. C'est vraiment ce qui m'a fasciné de cette main. Et dans le livre, ça marchait très bien. Le fait, dès que cette main qui se réveille au fond d'un frigo de médecine, qui se remet à penser à son corps, alors évidemment, dans le livre, elle le verbalise, elle parle à la première personne. On a mis un peu de temps, peut-être, à se débarrasser de ce... Au début, il y avait une voix off dans le livre. Et petit à petit, je l'ai éliminé. Sur les conseils aussi de mon producteur, parce qu'on voyait que ça ne menait pas grand-chose. Finalement, il n'en restait plus grand-chose. Donc, il fallait l'enlever. Finalement, il fallait aller à fond dans la caractérisation du personnage qui évolue dans un monde muet. Et plutôt qu'avoir peur de ça, il fallait au contraire utiliser ça et utiliser la force de ce personnage-là qui passait par le sensoriel, le toucher. Voilà.
Et tu faisais beaucoup de courts-métrages avant, et de passer au long-métrage, c'était un défi pour toi ou...
Moi, je m'étais interdit d'en faire parce que c'était... Je voyais que entre la liberté que j'avais dans le court-métrage et ce que j'allais perdre en allant sur le long-métrage, parce qu'en animation, les exemples étaient pas... Il n'y en avait pas beaucoup des exemples je trouvais où la proposition cinématographique pouvait être intéressante. Souvent, j'ai des amis qui sont passés au long. L'expérience s'est avérée décevante en fait pour eux, pour des raisons économiques, pour des raisons de contrôle, de maîtrise sur ce qu'ils faisaient, de demande de la part des uns et des autres. Bref, ils perdaient complètement la main sur leur projet et tout ça. Donc ça ne m'intéressait pas. Moi, je fais du cinéma pour être libre, d'aller sur du long métrage pour être faire quelque chose qui ne me plaisait pas. Donc je m'étais interdit, moi, de proposer des idées, parce que c'était tellement long d'amener un projet. Adulte, puisque mes courts-métrages sont un peu plus adultes, et je m'étais dit je vais pas perdre 3 ans à faire un dossier pour avoir peu de chances de pouvoir faire le film au final. Je vais perdre 4 ans sans faire une image. Ça me désespérait en fait d'avance, et le fait que finalement ça vienne que ça soit l'initiative d'un producteur comme Marc Dupontavis, qui a quand même un studio derrière lui qui est assez solide, ça me confortait, ça me rassurait. En tout cas, ça me donnait espoir que cette entreprise n'était pas vouée à l'échec et que j'étais pas seul, moi, à vouloir faire ça.
Justement, qu'est-ce qui a changé dans ta manière de travailler? Parce que là, pour le coup, c'est une grosse équipe quand même. Quand je voyais le générique, est-ce que ça a changé ta manière de voir, de fabriquer les films?
Nécessairement, on entre dans un procédé industriel qu'on n'a pas forcément dans le court-métrage. Mais j'ai quand même pas mal challengé aussi la production et l'industrie pour garder ma liberté et donc apporter quelque chose de plus organique dans la fabrication. Ce qui n'est pas toujours facile à comprendre peut-être dans l'industrie, parce que les gens n'ont pas l'habitude peut-être de travailler tant que ça avec des gens qui viennent du court-métrage, qui ont des exigences peut-être différentes que des gens qui sont nés dans les studios et qui sont finalement devenus réalisateurs parce qu'ils étaient d'abord animateurs, puis assistants réalisateurs, qui sont devenus plus par l'animation réalisateurs. Et d'amener un auteur là-dedans, c'était un peu... je sais que ça faisait peur au départ, il y avait peut-être des craintes, peut-être des... qu'est-ce qu'il fait celui-là, etc. Mais voilà, j'ai réussi à les convaincre aussi. Ils ont fait... C'était difficile pour eux, c'était difficile pour moi. On était tous dans le même bateau et vraiment tout le monde a fait... Je pense que l'industrie a fait un petit pas vers l'auteur et l'auteur a fait un petit pas vers l'industrie. On est obligé de s'entendre quand même pour que ce soit viable, en fait.
On le disait tout à l'heure, le film il a été adapté d'un livre. Est-ce que tu es resté fidèle à l'histoire de base ou est-ce que tu as pu prendre des libertés? Tu disais que tu étais assez justement dans la réalisation. Je pense à des petites références. Il y a John Irving, le livre du coup préféré de Gabriel, j'en dis pas plus. Ça, c'est des choix qui
viennent
de toi ou ouais?
Ça, c'est moi parce que j'avais besoin. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à m'approprier le livre. J'ai coécrit l'adaptation avec Guillaume Laurent, mais. En toute logique, c'était à moi de donner le cap pour c'était moi qui allais réaliser le film, c'était à moi de donner le cap et j'ai pas endossé ce rôle-là tout de suite, je pense. J'étais inexpérimenté dans l'adaptation, en fait, c'est ma première adaptation. Et j'ai compris que tardivement qu'il fallait, comme dit Truffaut, trahir pour l'adaptation. Adapter, c'est trahir. Et bon, à un moment donné, ça arrivait de nulle part et encouragé à la fois par Marc, le producteur, et même Guillaume, ils m'ont dit, bon, Jérémy, tu peux t'approprier le livre, n'aie pas peur de ne pas, suivre le livre. Et pour ça, il a fallu donc que je détruise ce livre. Je me dis, ok, qu'est-ce qui me plaît dans ce livre? C'est cette histoire de main, ce point de vue inédit. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? J'essaie de faire comme si moi, je commence un film avec cette idée en tête. Voilà, je me lève un matin avec cette idée en tête. Alors évidemment, j'ai toute la trame quand même du livre qui est là, qui m'aide aussi. J'arrive quand même à garder les éléments que je peux conserver.
Mais j'ai vraiment. Après autour.
Voilà, mais il y a voilà, j'ai vraiment tout restructuré, tout construit les personnages autour de cette idée centrale qui était cette main, une main qui part à la recherche de son corps, ce point de vue inédit, ce côté sensoriel. Comment je peux construire un personnage qui soit associé à cette main, le transformer un peu par rapport à celui du livre, donc trouver la main est très sensorielle.
Et justement,
tactile.
Comment on peut la rendre vivante alors qu'elle a pas de corps, elle a pas les yeux, elle a pas la bouche pour l'expression. Donc t'as travaillé comment pour
alors ça? C'était à la fois un challenge et en même temps quelque chose auquel je crois beaucoup. On peut créer de l'empathie. Enfin, je veux dire, Quentin Dupieux a réussi à faire suivre un pneu. Donc je pourrais réussir à faire suivre une main. Donc le cinéma permet vraiment, même pas que le cinéma,
c'est universel aussi.
C'est la façon de filmer. Ouais, c'est la façon de filmer, la façon de poser où, à quelle hauteur on pose sa caméra. On peut incarner n'importe quoi. On peut arriver à l'incarner finalement au cinéma. C'est ça qui est fou. Enfin, même en littérature. Donc ça, voilà. Moi, j'avais pas tant de doutes que ça. Il y avait un challenge après en termes d'animation, en termes
même
de
d'écriture, parce qu'il y a deux récits qui, enfin, l'un et l'autre, qui sont un peu du ping-pong. Ça a été compliqué ou pas?
Ça, c'était compliqué à équilibrer. En fait, c'était le dispositif du film induisait en fait ce jeu de temporalité. C'est-à-dire comme j'avais décidé très vite que voilà, on voyagerait à travers un point de vue inédit, celui de la main. Il fallait que la narration soit aussi fragmentée, soit aussi inédite dans la forme. Le fait de cette main, ce voyage physique qu'elle a dans la ville, qui est vraiment une vraie odyssée, et ces flashbacks, cette vie visite du passé quand elle était attachée à Naoufel encore, finalement on navigue, c'est un mélange des genres total, c'est-à-dire qu'on passe du suspense, l'horreur, à d'un coup un truc plus romantique et tout ça, et alors que je pense que c'est souvent difficile à faire dans le cinéma le mélange des genres, quand c'est pas le propos qui l'impose, là c'était vraiment le fallait que j'aille à fond là-dedans pour montrer toute cette richesse à plusieurs échelles, à une échelle très petite comme celle de la main, mais on parle aussi de destin, donc d'un coup on prend beaucoup de recul. Donc il y avait ce jeu de vraiment d'échelles qui était omniprésent et qui se retrouve dans les deux récits en fait.
Et au niveau graphique, on va dire, il y a un mélange entre de la 2D et de la 3D. Est-ce qu'il y a des références qui t'ont inspiré pour faire ce genre de choix?
C'est assez inédit, cette façon de fabriquer, elle vient plus de ma manière d'utiliser l'outil. Du coup, c'est moi qui ai décidé de. J'avais besoin d'un truc réaliste, d'un rendu réaliste, d'un univers réaliste, d'un truc tangible, où on puisse sentir la réalité physique des choses. Donc tout a été modélisé et animé en 3D. La main, finalement, c'est un vrai personnage dans un logiciel. Et parce que ça amenait quelque chose de réel.
C'est onirique aussi.
Oui.
Des couleurs. Et...
Bah, je voulais habiller cette réalité par le dessin et donner en fait un monde, créer un monde qui était à mi-chemin entre vraiment la photo, le cinéma et le dessin animé. Être vraiment dans pouvoir naviguer entre ces deux univers-là, que ce soit un peu plus réaliste que le dessin animé et un peu moins réaliste que la réalité.
Il y a la musique qui s'ajoute à ça, donc tu as travaillé avec Dan Levy, c'est ça? Du groupe The Do. Mm-hmm. J'allais te dire The Do, tout à l'heure j'ai entendu, donc c'est The Do.
Ouais, je crois que c'est The Do.
Comment ça s'est passé votre collaboration? Comment vous avez travaillé ensemble?
Bah, c'était vraiment. Pour le coup, quand on choisit un compositeur, on n'imagine pas. Enfin, je pense au moment où on le choisit, on va toujours se dire est-ce que t'es bien sûr de ton choix? Parce que c'est capital en fait. C'est un auteur du film. Dès le départ, enfin, dans mes films, j'ai toujours j'accorde beaucoup d'importance à la musique. Elle est présente dans mon esprit dès le départ. Après, les compositeurs, le but c'est qu'ils m'apportent autre chose, qu'ils m'amènent ailleurs par rapport à la vision que j'ai moi, sans la dénaturer, mais qu'ils l'exaltent. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Dan Levy. On est vraiment On s'est vraiment rencontrés autour de cette histoire. Et c'est au-delà de Dan, je pense que c'est aussi les équipes, les animateurs. Beaucoup de personnes voulaient voir ce genre de film exister, en fait. Ça tient aussi beaucoup au fait que Marc, le producteur, et moi, on avançait dans la même direction. Il n'y avait pas de conflit. On était toujours dans la discussion, dans les débats, mais fructueux. Voilà, on avait vraiment, on voulait le même cap, amener quelque chose d'inédit, essayer d'inventer, d'apporter un peu notre pierre à l'édifice du film pour adultes et d'avancer uniquement pour le cinéma, voilà, sans s'encombrer d'autres considérations. D'ailleurs, on a été aidé par le fait que le film n'a absolument pas été suivi par ni les chaînes, ni des subventions quelconques. Finalement, on était assez libre dans ce malheur de ne pas être très bien financé. On gagnait en liberté et en possibilité de travailler.
Merci beaucoup, Jérémy.
Merci.
Et là, c'est personnel, mais j'ai vu le film ce matin et j'ai adoré. Et c'est pour ça que je vais au cinéma, c'est pour voir ce genre de truc. Merci beaucoup.
Ah bah, c'est très gentil. Merci beaucoup.
Vous écoutiez Jérémy Clapin, c'était à l'occasion de l'avant-première aux 400 coups du film J'ai perdu mon corps qu'il a réalisé. C'était en décembre dernier, donc si vous n'avez pas encore vu le film, vous pouvez
DVD,
encore...
VOD
Oui, c'est possible. Et c'est vraiment très très bien. C'est très joli aussi pour les yeux et l'histoire est belle.
Ouais.
Voilà, vous êtes toujours dans votre émission La Musgueule. On est ensemble sur Radio G jusqu'à 18h50. On va faire une pause en musique maintenant avec un morceau qui mélange acid house et hip-hop. On a choisi un morceau du groupe belge Technotronic à l'unanimité. Oui, ils sont belges.
Ah bon ? Je le découvre.
J'ai vu ça tout à l'heure. J'espère que c'est pas une fausse info.
On va faire des recherches pendant le titre, mais vous allez danser de fou.
On vous dira tout à l'heure. Et le titre, c'est quoi déjà ? Je l'ai pas.
Ça. Merci, Émile.
Et ça date de 89.
Et on l'entend maintenant.
Sins to obtain the material benefits. Yo, the harder my work, the more I had to pay. So became a man as a youngster, spreading out. got positive vibes, a little funk, let's bust it. Couple of brothers are also microphone lovers in the stage. You can lie to your mother to stay out late to lie to others. In my hometown, you were the best in. That's why when I'm on top, you're resting. Now, you think you're good to go, but you can't go because I'm rocking the home. I've been snapped up by the record company, the dentist gets slapped up. Even your girl, she cracked up with laughter. Hearing your ridiculous statements, me and Technotronic, we tear up basements. Peace.
La Belgique nous étonnera toujours. On a vérifié, ils sont vraiment belges, donc c'était Technotronic. Pour la suite, eh bien, je vais te laisser prendre la parole. Émile, tu nous fais une petite chronique sportive.
Exactement, sur la reprise du sport et de la NBA en particulier. Parce que vous l'avez vu, depuis là quelques temps, malgré la crise sanitaire, il y a le sport qui reprend de, petit à petit, notamment le sport collectif. Et à part en France où le foot n'a pas repris, contrairement à l'Espagne, l'Angleterre ou l'Allemagne par exemple. Et ça fait un peu parler ça justement. Et en fait, au final, on se rend compte qu'il y a des conditions spéciales, match à huis clos, des personnels des remplaçants qui sont masqués. Il y a de la distanciation sociale entre les joueurs dans les tribunes, sur le banc.
Ouais.
C'est des groupes réduits, il y a des tests assez régulièrement. Et voilà, en France par exemple, ça fait parler pour le foot notamment, avec notamment le PSG et l'Olympique Lyonnais qui sont en Ligue des Champions et qui vont arriver dans la compétition avec beaucoup moins de matchs dans les pattes que la Juventus pour Lyon ou que l'Atalanta pour le PSG par exemple. Et du coup, ça déjà, ça peut poser un peu problème. Mais surtout, l'argument principal, c'était un peu l'argument financier, où c'était le foot, ça rapporte, et en gros, si on joue pas, ça peut mettre des clubs, enfin pas mal de clubs, un peu en difficulté.
Mmh.
Mais il y a un sport où la reprise était contestée, et est de plus en plus contestée, c'est la NBA, qui est maintenant en pause depuis 4 mois à peu près, où pour moi, la suspension de la saison de la NBA, c'était un peu le déclic dans ma prise de conscience sur le coronavirus, où contrairement à l'Europe où le sport s'est relié à des fédérations, la NBA c'est une entreprise privée.
Mm.
Et en gros elle génère en 2016 elle a généré 6 milliards de dollars je crois en tout, et ça augmente chaque année, chaque année c'est exponentiel. Et donc voilà, la NBA va reprendre, et je me suis perdu dans la fiche, excusez-moi.
Mais en gros, si eux s'arrêtent, c'est pas...
Voilà. Si eux s'arrêtent, en gros, s'ils mettent tout en pause avec des contrats non finis et tout, c'est que la situation elle est un peu exceptionnelle quand même.
Ouais, quand on met autant d'argent de côté.
Exactement. Pour les néophytes, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement d'une saison NBA, vu que ça peut, c'est très différent du sport en Europe.
Mm-hmm.
Il y a 30 franchises qui sont séparées en deux conférences, il y a la conférence Est et la conférence Ouest. Il y a 15 équipes de chaque côté. Toutes les équipes participent à 82 matchs. Et ensuite, à l'issue de ces 82 matchs, les 8 meilleurs de chaque conférence sont qualifiés dans un tournoi qui s'appelle les playoffs. En gros, les playoffs, ça va être le premier va jouer contre le premier de la conférence Est va jouer contre le 8e de la conférence Est, le deuxième contre le 7e, le troisième, le 6e, etc., etc. Donc en fait, il y a deux tournois au final. Il y a le tournoi à l'Est et à l'Ouest. Et en fait, c'est pour définir la meilleure équipe de l'Est et la meilleure équipe de l'Ouest. Et après, ces deux équipes vont s'affronter dans la grande finale pour définir le champion NBA.
C'est tout un bazar.
C'est ça. Et cependant, avec le coronavirus, on l'a vu, c'est des saisons qui ont été un peu exceptionnelles. Et du coup, l'NBA reprend. Et pour ça, ils ont mis en place un dispositif un peu aussi exceptionnel. toutes les équipes qui ne sont pas encore mathématiquement éliminées pour les playoffs, en tout il y en a 22, se rejoignent à Orlando dans le parc Disney World qui leur a été mis à disposition dans une bulle de confinement afin de pouvoir finir la saison. Les équipes qui seront en grande finale resteront jusqu'à 3 mois totalement confinées dans cette bulle. Donc c'est quand même jamais vu dans le sport, à part pour une Coupe du Monde par exemple, au foot où
on est
habitué à ça. Mais aux États-Unis c'est très rarement comme ça, et du coup pour eux ça leur fait un peu tout drôle. Et donc il y aura chaque équipe qui jouera 8 matchs de saison régulière afin de définir les dernières équipes qui vont être qualifiées pour les playoffs. Et pour les connaisseurs, il y a une petite nouveauté. Si le 8e de chaque conférence a moins de 4 victoires, enfin a 4 victoires ou moins d'avance sur le 9e, ils vont s'affronter en fait dans une espèce de match où le 8e pardon, a besoin de gagner un seul match face au 9e. Par contre, le 9e a besoin de gagner 2 matchs pour se qualifier.
Un truc de connaisseur.
C'est ça. Et normalement, en NBA, une série, on appelle ça une série. Un match entre deux équipes, ça se joue en 7 matchs maximum. Donc les premiers à 4 matchs remportent la série et passent au niveau suivant. Donc là, c'est un peu différent. Et bon, évidemment, il y a des mesures sanitaires qui ont été mises en place pour ça. Donc il y a des contrôles réguliers quasiment tous les jours. Il y a une seule salle qui va servir pour jouer les matchs. Par exemple, la douche est interdite. Les joueurs n'ont pas le droit de prendre une douche dans cette salle-là. Les remplaçants sont masqués, espacés, les joueurs inactifs sont en tribune. Il n'y a pas d'invité dans la bulle de confinement pendant 2 mois. Après, les familles pourront venir en petit comité pour rejoindre les joueurs, mais encore, ça fait parler. Et aussi, il y a une ligne qui a été mise en place, une ligne téléphonique anonyme, qui permet à n'importe quel joueur ou membre du personnel des équipes d'appeler, de dénoncer quelqu'un qui ne respecte pas... en fait, les mesures de confinement sanitaires qui ont été mises en place. Donc, ils n'ont pas le droit de sortir de l'hôtel. Ils ont une zone où ils doivent rester. Il y a un joueur qui s'est fait épingler il y a quelques temps, là, il n'y a pas longtemps, parce qu'il a commandé un Deliveroo.
Donc, il s'est dit voilà. Que ça passerait quand même.
Et du coup, dès qu'ils se font choper, en gros, c'est 15 jours de mise en quarantaine. Et donc, c'est 15 jours de perdu.
Mais en fait, c'est un peu comme si toutes les équipes allaient dans l'espace, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Mais bon.
En vrai, c'est un peu ça. Et en vrai, ces mesures-là ne s'appliquent pas qu'aux joueurs et au personnel des franchises, mais il y a également les journalistes qui devaient arriver 15 jours avant que les équipes n'arrivent dans les hôtels. Et le coût de chaque jour sur place pour les journalistes, c'est environ de $750, comprenant l'hôtel et tout le service nourriture, tout ça. Enfin voilà. Et malgré ces mesures importantes, il y a quand même certains points qui restent un peu flous. Notamment le fait que les employés qui travaillent dans les hôtels, eux, ne sont pas soumis à ce système de bulles. Le soir, ils peuvent rentrer chez eux sans souci. Donc ça, déjà, c'est un premier problème parce que la bulle n'est pas vraiment fermée au final. Et il y a aussi le fait qu'en Floride, en ce moment, notamment en Orlando, le coronavirus est en train de monter en flèche. Et c'est sans doute l'un des pires endroits où être en ce moment.
Ouais.
Et il y a certains aussi qui pointent le fait que justement cette reprise de la NBA soit uniquement faite pour l'argent. Bon, ça s'entend, on n'est pas naïf, on le sait aussi. Mais il y a quand même quelques précisions à apporter par rapport à ça, parce que c'est pas juste une histoire de on va se faire quelques millions en plus, c'est pas juste une histoire de bénéfice, vu qu'au final c'est peut-être l'avenir de la NBA qui est en jeu là-dedans. Donc effectivement, avec les 8 matchs de saison régulière que chaque équipe vont jouer, la NBA va honorer son contrat de droits télé, qui va lui rapporter environ 2 milliards de dollars juste pour les droits télé. Donc ça enlève tous les autres revenus à côté. Et il faut également savoir qu'il y a un CBA qui est en place en NBA. Donc c'est un contrat qui lie la NBA, les 30 propriétaires de franchise et tous les joueurs, le syndicat des joueurs en gros, qui régit les contrats entre les joueurs, les franchises, la redistribution des bénéfices, des revenus. C'est beaucoup d'administratif en gros, pour faire simple. Et ces accords-là, ils durent 6 ans. Lorsqu'il y a une renégociation de ce contrat-là, il peut y avoir des mésententes et ça peut amener à des lock-out comme on a vu en 99, je crois, et en 2011, où en gros, c'est les joueurs qui font grève et qui ne veulent pas jouer. Et si la saison s'était définitivement arrêtée, du coup, ça, déjà, la NBA aurait perdu de l'argent, Et vu la situation actuelle, rien n'aurait dit que la saison, enfin qu'une saison aurait recommencé en octobre, quand ça, comme ça reprend habituellement. Bah, parce qu'on ne sait pas trop comment le virus va évoluer, surtout en ce moment. Et le contrat télé et le CBA, du coup, le contrat qui lie un peu tout le monde dans la NBA, aurait également été rompu. Et les temps de renégociation pour les droits télé, je crois, pour là, ce contrat-là qui leur fait gagner 2 milliards de dollars, ils ont mis 2 ans à le négocier avec, avec leurs partenaires. Et le CBA, pareil, ça met beaucoup de temps à être négocié, donc c'est pas un truc où en 3 semaines, c'est bon, c'est fini. Ça peut prendre 1 à 2 ans, donc, et tant qu'il n'y a pas de contrat signé, bah, il n'y a pas de jeu. Donc ça, déjà, du coup, ça peut faire perdre encore plus d'argent à l'NBA, et sachant que, bah, du coup... Bah, ça peut, si la NBA perd trop d'argent sur quelques années, elle peut juste être en faillite et du coup ça peut totalement disparaître. Après il faut savoir que bah, chaque joueur qui participe là à cette bulle Orlando, ils ont fait le choix d'y être. Ils pouvaient très bien refuser, ça a été dit directement par la NBA, vous pouvez participer mais si vous voulez pas vous le faites. Enfin, vous ne participez pas. Il y a certains joueurs notamment des grosses stars qui revenaient de blessure, qui n'ont pas voulu prendre de risques parce que bah, voilà, rejouer un tel niveau de jeu après 4 mois sans s'arrêter, on l'a vu dans le foot, il y a eu énormément de blessures qui sont arrivées et bah, les joueurs de NBA ils veulent des bons contrats à chaque fois. Et forcément bah, une blessure ça aide pas à négocier un contrat. Il y a notamment un joueur qui l'a dit ouvertement qu'il ne voulait pas jouer pour pas risquer...
Une blessure, ouais.
Pour pas risquer voilà, que son contrat, parce qu'il faisait une saison vraiment exceptionnelle cette saison-là. Et il ne voulait pas reprendre parce que son équipe n'avait absolument rien à jouer. Il s'était éliminé d'office quasiment. Donc il n'a pas voulu prendre de risque. Donc on se rend un peu plus compte de la situation du sport professionnel actuellement. C'est pas juste une histoire de perdre quelques millions, mais aussi l'existence de tout entière de certains clubs et de la NBA aussi notamment, qui dépend en fait de la reprise ou non de ces championnats-là. Et alors effectivement c'est pas la priorité en ce moment, mais revoir un peu de sport à télé ça fait quand même plaisir. Et même si j'étais pas spécialement pour une reprise de la NBA vu que c'est ce que je suis, depuis un mois là, il commence à avoir une hype qui monte encore autour de ça. Et j'avoue que je me laisse un peu porter par tout ça et je suis quand même pressé que ça reprenne. Même si ça va être un peu bizarre, je pense.
Ouais, c'est complètement étonnant quoi. Après, c'est sûr qu'il y a plein d'enjeux aussi de personnes qui bossent autour. Et ça doit reprendre quand ?
Là, ils sont à Orlando depuis maintenant 2 semaines pour la plupart. Là, à partir de ce soir, il y a des matchs amicaux qui reprennent pendant une semaine. Et après, il va y avoir les 8 matchs de saison régulière qui vont commencer à partir du 30 ou du 31 juillet.
Ok. Merci, Emile.
Merci. Est-ce qu'on va avoir le temps
Je vous ai proposé, annoncé une sélection podcast, mais je vous propose de la retrouver demain. Car le temps a filé à toute vitesse. Mais on peut se quitter avec un super titre de The Comet is Coming. Et on va se retrouver après pour dire bonne soirée.
Et c'est déjà la fin de la Musgueule sur Radio G. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur radio-g.fr. Et bah merci Anne-Lie pour la technique de cette émission.
Merci Emile.
Et merci Kelly.
Ah mais merci à toi.
Et on se retrouve demain.
On se retrouve demain, effectivement, pardon, oui.
À la même heure.
Demain à la même heure, 18h10, sur le 101.5 FM.
Ouais.
Et bah bonne soirée sur Radio G. Et
salut.
Tout de suite, c'est Sous les jupes des films.
Radio G. 101.5 FM.